On poursuit ensemble pour parler d'un autre sujet qui fait débat, la guerre à Gaza qui s'invite dans le concours de l'Eurovision. Israël dispute aujourd'hui la deuxième demi-finale, ce qui a entraîné une grande manifestation dans la ville suédoise de Malmö, là où se déroule le concours. Les manifestants appellent à exclure Israël. On va aller retrouver tout de suite notre journaliste sur place, Philippe Dufresne, journaliste culture à BFM TV. Vous avez suivi toute la journée ces manifestations, vous suivez donc ce concours d'Eurovision en ce moment à l'heure où on parle. Racontez-nous l'atmosphère après ces manifestations toute la journée.
C'était une journée extrêmement intense ici à l'Eurovision, à la fois sur scène où se déroulaient les demi-finales, la deuxième demi-finale, et puis également dans les rues effectivement de la ville ici de Malmö, où plusieurs milliers de personnes effectivement ont défilé contre la présence d'Israël au sein du concours de la chanson. La communauté palestinienne de Malmö, mais aussi des manifestants du monde entier, dont la militante Greta Thunberg, ont manifesté, défilé dans les rues de la ville ici au son de libérer la Palestine en brandissant des drapeaux palestiniens, alors que la Russie a été évincée il y a 2 ans. Et bien ici les manifestants réclamaient l'exclusion du pays de la compétition à travers sa chanson Hurricane, ouragan, un véritable ouragan effectivement ici lors de ce concours, recalé à plusieurs reprises parce que les paroles étaient justement trop polémiques, trop politiques aux yeux de l'UER, et finalement qui a fini par concourir ce soir. La sécurité a été renforcée ici à Malmö dans l'optique des demi-finales et de la finale qui aura donc elle lieu samedi, journée où une nouvelle manifestation pro-palestinienne est annoncée dans la ville.
Merci beaucoup Philippe Dufresne. Exclure Israël, c'est la volonté aussi de la France Insoumise, de Mathilde Panot, message posté par la présidente des députés de la France Insoumise sur X, ex-Twitter, et relayé par d'autres députés européens. On regarde.
Des voix du monde entier s'élèvent pour exiger le cessez-le-feu. Des artistes, des étudiants se mobilisent par milliers dans les universités aux États-Unis, en France, en Tunisie, au Liban. Un effort collectif pour sauver l'humanité. Mais jusqu'à présent, l'Eurovision reste silencieux.
Pourtant, en 2022, la Russie a été immédiatement exclue de cette compétition suite à l'invasion illégale de l'Ukraine.
It is in the name of peace. It's in the name of love for culture that we call for Israeli out from Eurovision, as long as the massacre of the Palestinian people moves on.
We call on the Eurovision, act now, exclude Israel, or else boycott.
Voilà pour le message de Mathilde Panot. On accueille notre invité sur ce plateau, Émeric Caron. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, député rêve, apparenté la France insoumise. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Il faut donc exclure, selon vous, Israël du concours.
Ce serait une sage décision, oui, parce qu'il y a une forme d'indécence aujourd'hui à voir la représentante d'Israël se mêler à une manifestation qui est une manifestation festive où on va chanter, où on va danser. Et aujourd'hui, qu'elle le veuille ou non, elle incarne un État, un pays, un gouvernement qui est en train de commettre ce que moi j'appelle un génocide, ce que nous sommes nombreux à appeler un génocide, ce que d'autres appellent plus pudiquement des crimes de guerre, à Gaza, avec un bilan que je rappelle.
Ce terme de génocide, on est obligé de vous reprendre.
Non, vous n'êtes pas obligé de me reprendre. Vous faites le choix de me reprendre. Il faut malheureusement
rappeler que ce terme de génocide, effectivement, la France insoumise l'emploi. Amnesty International parle de risque génocidaire. Mm-hmm. Mais pour l'instant, ce sera à la justice, aux enquêteurs de trancher.
Il n'y a pas que. La rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés qui utilise ce titre. Il y a d'autres experts de l'ONU qui l'utilisent. Il y a des spécialistes de l'histoire des génocides qu'il utilise. Donc, il faut arrêter de raconter aussi cette histoire en France sur laquelle il y aurait une surréaction de notre part dans notre analyse des événements aujourd'hui à Gaza. Et puis, de toute façon, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, faire une polémique autour de ce terme, c'est-à-dire monopoliser un temps de parole pour discuter, débattre, savoir si c'est génocide, pas génocide, je trouve que...
34 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas à l'heure où on parle.
Plus 10 000 disparus et 2 à 3 fois plus selon les humanitaires de retour sur Terre.
C'est important les mots, on pourrait polémiquer toute la soirée, ça n'a pas de sens, mais Platon disait la décadence de la cité commence avec la fraude des mots. Est-ce que c'est pas frauder les mots que de penser que ce mot de génocide qui appelle des preuves, une enquête, parce que bien ça sûr. Répond à une définition juridique précise, bah, doit être utilisé avec prudence maintenant.
Alors vous avez raison.
On verra ce que l'avenir vous réservera
fait...
comme réponse. Mais
vous avez tout
massacre,
à fait...
carnage, évidemment les guerres, c'est cela.
Ce que vous reconnaissez.
Mais
vous
bien
reconnaissez
sûr, bien sûr.
Massacre,
bah, exactement comme Jean-Luc Mélenchon l'avait reconnu pour des bombardements contre Daesh en disant ah bah la guerre ça fait des morts civiles. Vous voyez, donc sans tomber dans le cynisme. On mais ne peut pas
mots,
aujourd'hui,
les mots,
en l'état, être sûr que c'est crime de guerre, génocide, certains disent
vous avez raison. L'humanité. Vous avez raison de dire qu'il faudra qu'une juridiction puisse mettre ce mot. Vous savez que c'est une enquête qui va durer
bien
plusieurs
sûr.
Années.
Ah oui, bien sûr. Bien,
bien
sûr,
évidemment,
bien
on est d'accord là-dessus. En revanche, ça ne nous empêche pas d'exprimer notre conviction.
Tout à fait.
En
tout
nous
fait.
Basant sur le droit international et sur les expériences
bien
passées,
sûr.
Sur les
le
définitions
pénal,
précises
alors,
du droit international.
Conviction, mais pas certitude.
Le tribunal pénal international.
Ah ben, parce
que vous faites ce soir. De génocide.
Vous êtes dans la conviction, pas dans la certitude. Vous
moi, j'ai la certitude, alors oui. C'est une conviction.
Et vous ne nous l'imposez pas.
Et peut-être qu'un jour, des juristes, dans quelques années, nous diront nous nous sommes trompés et ces dizaines de milliers de morts, ces 15 000 enfants tués.
Ça s'appelle la guerre.
Oh non, il y a la guerre, vous savez, elle est régie par le droit international. On ne peut pas tout faire pendant la guerre.
Et non, bien sûr.
Alors je sais que vous avez une vision un petit peu particulière de ce qui se passe là-bas en Israël, puisque pour vous, il n'y a pas d'occupation, par exemple.
Si, bien sûr.
Si, si,
bien
c'est
sûr.
Ce que vous avez dit sur cette même antenne.
Attendez, on va revenir. Est-ce qu'on peut revenir sur le débat du jour, s'il vous plaît ?
Non, mais je veux juste.
Sur l'Eurovision.
Oui, oui, sur l'Eurovision.
Mais parce qu'il y a un débat qui est passionnant.
Non, bien sûr,
bien sûr. Mais c'est vrai qu'on l'a eu à moult reprises. Mais justement, sur l'Eurovision.
Juste de faire croire qu'il y a zéro chance de génocide, qu'il n'y a pas de génocide, qu'il n'y a rien du tout.
J'ai dit justement que les organisations parlent d'un risque génocidaire. Il y a quelques
personnalités politiques en France qui, pour des raisons politiciennes, utiliseraient ce mot, c'est entièrement faux.
Alors, on parle de qui ? On parle d'Eden Golan. C'est elle donc qui représente Israël. Elle est russo-israélienne, vous la voyez là. Vous la voyez là chanter. Alors, sa chanson d'ailleurs a été considérée politique, trop politique à deux reprises. La première version a été rejetée, la deuxième version a été rejetée parce que c'est dans ces deux premières versions, elle faisait des références directes aux attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. La troisième a finalement été acceptée. Elle s'appelle Hurricane. Vous la voyez là. On va écouter Benjamin Netanyahou qui lui a envoyé un message de soutien, le Premier ministre israélien.
Eden, je veux te souhaiter bonne chance. Tu sais quoi ? Tu as déjà gagné, car non seulement tu participes fièrement et de manière impressionnante à l'Eurovision, mais tu affrontes avec succès une horrible vague d'antisémitisme. Tu t'y opposes et tu représentes l'État d'Israël avec beaucoup d'honneur. Alors sois béni et sache que lorsqu'ils te hurleront, nous te crierons « Hourra ».
L'Eurovision rappelle son ADN. L'ADN, c'est d'être apolitique. Vous vous dites, c'est clairement la porte-parole du gouvernement israélien.
Je n'ai pas entendu dire ça. Je dis simplement...
Vous l'avez dit tout à l'heure.
Non, je n'ai pas dit la porte-parole du gouvernement. Je dis, elle représente un
elle pays. Elle représente le gouvernement.
Un pays, et donc, de fait, elle représente l'action actuellement du gouvernement de ce pays, qu'elle veuille ou non, puisqu'elle ne se présente pas en son nom propre, mais elle se présente bien avec un drapeau. C'est un pays qui gagne ce concours.
Vous pensez que ce pays n'a pas le droit d'exister ?
Pardon ?
Vous pensez que ce pays n'a pas le droit d'exister ?
Mais c'est quoi cette question qui n'a aucun sens, qui est même offensante ?
Mais elle, je
quel
continue
est le
à
rapport
vous la poser.
Quand,
vous dites,
quand la
elle
Russie,
représente
quand
un
la
pays
Russie,
qui n'a pas le droit
quand,
d'être là.
Quand, mais ça n'a aucun rapport avec le droit d'exister. Quand la Russie a été exclue de l'Eurovision,
est-ce en que, 2022.
Ça, voulait, est-ce que oui. Ça voulait dire qu'on ne voulait plus que la Russie existe, qu'elle disparaisse des cartes ?
Oui, mais il y a eu le 7 octobre. Là. La Russie n'a pas été victime d'un attentat, d'un massacre qui aurait provoqué une réponse militaire.
Mais
Israël, ça a été le cas. Il y a eu le 7 octobre.
Oui, bien sûr.
Mais
en fait, vous êtes en train de m'expliquer, que non, ça va bien, comme vous le faites sur tous ces plateaux, qu'il y a eu les attaques terroristes absolument atroces, inacceptables du Hamas le 7 octobre, et qu'en raison de cette attaque, Israël peut désormais tout faire.
Ah non, surtout
tout
pas faire.
Absolument tout oublier.
Ce qui se passe à Gaza, le gouvernement Netanyahou aura des comptes à rendre, puisqu'il faudra
bien
enquêter.
Sûr.
Mais quand il y a eu le 11 septembre 2001, attentat terroriste, les Américains ont bombardé l'Afghanistan largement, personne n'a appelé au boycott. Là, il y a un attentat contre Israël, ils ripostent.
La vous comparez les deux ?
La riposte appelle.
Vous comparez vraiment les deux ?
Oui. Bah, je trouve que le pogrom du 7 octobre, c'est pire. Ouais. Peut-être pire encore comme attaque terroriste que ce qu'il y a eu le 11 septembre.
Ça correspondrait à 40 000 morts en Amérique si on prend les tailles des populations.
Oui, c'est voilà.
Il y a eu 3 000 morts le 11 septembre.
Et le nombre de morts à Gaza correspondrait à 1 million de morts en France aujourd'hui.
C'est terrible. Mais pourquoi le boycott de l'Eurovision est une réponse à cela ?
Parce qu'il serait temps de mettre au banc Israël.
Laissez
Émeric Caron parler, s'il vous plaît.
Qui sont censées des manifestations des manifestations culturelles, des manifestations sportives, qui sont des manifestations où on va effectivement célébrer, fêter, etc. Comme on l'a fait de tout temps pour des pays qui étaient criminels. au moment où on prenait cette décision. Il y a eu du boycott de l'Afrique du Sud au moment où elle pratiquait l'apartheid. La Russie est sanctionnée de la même manière.
Oui, mais enfin, l'Iran participe à la Coupe du Monde. Enfin, vous voyez, c'est...
Oui, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment, il y a un deux poids, deux mesures qui devient absolument intolérable, inacceptable.
Ah, Philippe Glucksmann, vous direz les Ouïghours, vous ne vous appelez pas le code de la Chine.
Mais c'est pas,
le Soudan.
Comment vous pouvez à chaque fois chaque fois qu'on vous parle de ce qui se passe. En fait, vous avez toujours besoin de regarder ailleurs.
Attendez, oui parce que j'ai l'impression que vous avez toujours besoin, vous, de regarder qu'Israël. C'est ça qui me trouve.
Je regarde pas qu'Israël, simplement. Je regarde pas qu'Israël. Vous savez qu'en plus, j'étais, à un moment dans ma vie, journaliste, grand reporter.
Tout à fait.
J'ai parcouru beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de situations. Alors, m'accuser aujourd'hui de faire un focus, une obsession sur un pays, c'est d'une mauvaise foi incroyable. Simplement. Je crois que c'est la première fois dans notre histoire que nous avons un génocide qui se déroule sous nos yeux, en direct, de manière documentée, chaque jour. Chaque jour, vous avez des images absolument atroces qui vous parviennent, qui sont absolument inédites. Vous n'avez jamais vu ça jusqu'à présent. Des enfants qui sont écrasés, écrabouillés encore aujourd'hui, ce matin, en raison des derniers
bombardements,
des enfants
écrabouillés,
des enfants brûlés, des enfants amputés. Enfin, honnêtement, et puis bien sûr tous les adultes.
Et le
également.
Soudan, en même temps, à 1500 km au sud de.
Mais
au
il
sud
n'empêche
de
qu'il
Gaza.
Se passe des horreurs à Gaza aussi.
Cette stratégie qui est extrêmement offensante pour les Palestiniens, parce que cette manière de les déshumaniser, à savoir que vous ne voulez pas qu'on ait de conversation.
Le Soudan, c'est rien.
Vous ne voulez pas.
Ils sont noirs, ça vous ennuie.
Attendez, il y a un truc qui est génial. Enfin, génial, non, c'est bien évidemment une antiphrase, qui est horrible. Nous venons ici parler de la participation d'Israël à l'Eurovision, oui ou non, de la participation d'Israël ou pas aux Jeux Olympiques, parce que ça aussi, j'aurais quelque chose à dire.
Vous souhaitez qu'il
participe sous la bannière neutre. Et vous êtes en train de parler du où il se passe des choses absolument affreuses, terribles. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas un mot de compassion aujourd'hui pour ce qui se passe à Gaza et pour ce que subissent les Palestiniens. Comment se fait-il que vous soyez en train de parler du Soudan au moment et vous parlez de l'Afghanistan alors que nous essayons de parler ce soir, c'est le sort absolument atroce qui est réservé aux enfants
palestiniens. C'est atroce.
Et ben,
Il y a un moyen très simple.
Essayez-vous toujours de détourner l'attention sur d'autres sujets. Vous détournez l'attention, c'est scandaleux. C'est une manière de déshumaniser ce que vivent les Palestiniens qui est absolument immonde.
Emerika, en seriez-vous d'accord pour dire que pour que cette horreur s'arrête tout de suite, pour qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Il y a une solution. Le Hamas se rend. Ils sortent les mains en l'air de leur tunnel. Le Hamas, ils libèrent les otages.
Je ne suis pas un défenseur du Hamas.
Dites-leur de rendre les otages et de se rendre.
Vous êtes sérieux?
Mais dites au Hamas. Envoyez ce message politique au Hamas.
Non, mais vous êtes sérieux?
Écoutez, je tente quelque chose.
Vous avez fini d'être comme ça, offensant? Moi, j'ai un message à passer au Hamas. Je n'ai aucun lien avec le Hamas.
Vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas de lien, je sais, mais votre parole est forte.
Ben alors, le Hamas, je l'ai condamné
dès
le 7 octobre.
Je sais. Vous faites passer un message à Israël. On l'entend. Et vous avez raison sur certaines choses. Mais ce que dit simplement Christophe Barbier, c'est faites passer aussi un message au Hamas.
Que le Hamas m'écoute, je n'ai aucun lien avec le Hamas. Alors arrêtez avec.
Mais je ne vous dis pas
vos manières de faire qui sont, je vous dis, extrêmement
très simple.
En plus d'être un peu stupide.
Alors.
Mais c'est votre réaction qui est excessive et inappropriée. Vous ne nous écoutez pas. Vous avez quelque chose à dire, je n'écoutez personne.
Ah si, j'entends bien, monsieur Barbier veut parler d'Afghanistan, madame veut parler du Soudan, et vous croyez que nous venions parler du sort des Palestiniens.
Allez, j'aimerais justement qu'on aille en Israël, si vous permettez, retrouver Julien Balloul, alors ex-porte-parole de l'armée israélienne. Bonsoir à vous, j'imagine que vous suivez le débat depuis le début. Alors non, s'il vous plaît. Pas d'insultes,
c'est
évidemment.
Un bon spécialiste sur les réseaux sociaux.
Sur ce plateau, c'est vraiment contre-productif. Mais simplement, déjà, comment vit-on ce climat en Israël par rapport à cette candidate israélienne? Comment vit-on ce désir d'exclusion et pas seulement de la France insoumise, hein, d'autres pays d'Europe du Nord sont pour.
Oui, ben là, alors on se parle, les résultats du vote de la demi-finale sont en train de tomber. Ce qui est assez hallucinant et ce qu'on ressent, et je l'ai entendu dans ce débat, c'est en fait, on met Israël au même rang que la Russie ou que d'autres pays qui ont commis des atrocités. Mais je vous rappelle, c'est Israël qui a été attaqué le 7 octobre. C'est pas Israël qui est en train de déclencher une guerre. C'est pas Israël qui a déclenché la guerre à Gaza. C'est pas Israël qui retient des otages. C'est pas Israël qui a souhaité retourner dans la bande de Gaza. Enfin, n'inversons pas les choses de seconde.
Mais Julien Balloul.
Attends, non, laissez-moi terminer. J'ai longuement écouté vos propos les uns des autres. Je voudrais juste réagir. Ensuite, sur l'Eurovision et uniquement sur l'Eurovision. Après, on pourra parler de la guerre, c'est un autre débat, mais sur l'Eurovision. Monsieur Caron disait, du coup, elle représente les actions de ce gouvernement. Mais enfin, est-ce que le candidat de la France représente Monsieur Macron? Mais non, mais pas du tout. La chanson israélienne cette année est un hommage aux jeunes massacrés à Nova, qui, je vous rappelle, sur la taille, c'est environ 80 fois le Bataclan. C'est un hommage aux jeunes massacrés dans un festival de musique. Sérieusement, c'est contre ça que les gens sont en train de manifester, contre un hommage à des jeunes qui ont été massacrés dans un festival de musique. Sérieusement. En plus, je vous rappelle que dans le passé, l'Eurovision et les gens qui regardent l'Eurovision d'Israël et les candidats qui sont à l'Eurovision, c'est les populations les plus, comment dire, pacifistes, les plus diversifiés. Je vous rappelle Dan International, je vous rappelle Alléluia, je vous rappelle Toy, etc., etc. On n'est pas dans un champ militaire. On n'est pas dans une troupe de l'armée. Mais enfin, soyons sérieux deux minutes. C'est pas la politique de Netanyahou qui est condamnée. C'est la participation d'Israël, c'est la présence même, c'est le drapeau d'Israël même qui est condamné.
Émeric Caron.
J'ai déjà répondu. Monsieur Balloul soutient un régime génocidaire depuis déjà des années.
Non, c'est
donc j'ai pas spécialement envie de dialoguer avec lui. Si on remet en cause le principe même du boycott,
politique, ne parlez pas tous en même temps.
C'est extrêmement utile.
On a un problème. Julien Balloul, on a repris le terme de génocide sur ce plateau.
Il est en train de m'accuser de soutenir un génocide, un crime. Je ne peux pas laisser monsieur Caron avec son obsession anti-israélienne qui date déjà d'Ilan Halimi, je vous rappelle, à Jormen et ses propos. Son
mais bien obsession, sûr. Alors qu'il mais sait bien que sûr. Bien sûr, monsieur Balloul.
Il sait que je suis un opposant à Netanyahou. Il sait que je suis de la gauche israélienne. Il le sait.
Vous êtes de la gauche israélienne, celle qui s'est perdue, vous voulez dire? Celle qui a oublié de militer pour la paix depuis je ne sais combien d'années?
Monsieur Caron,
ça aurait été intéressant de vous
rendre compte.
Un Israélien qui milite aujourd'hui pour que Netanyahou parte, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour que s'arrêtent effectivement les massacres de Gaza. Il y a beaucoup d'Israéliens qui portent cette voix aujourd'hui. C'est dommage que vous ne leur donniez pas plus la parole et vous invitiez des extrémistes.
Monsieur,
c'est vraiment
monsieur
très dommage.
Caron, je n'ai aucune.
On donne la parole à tous les profils sur ce plateau.
Ne pas laisser dire ça.
Contre le gouvernement auquel je n'ai pas, j'appartiens pas et contre lequel j'ai voté pendant plus d'un an, nuit et jour. Je n'ai aucune leçon de militantisme à recevoir de votre part, monsieur. Je défends
votre pays. Est-ce que vous dénoncez les massacres de Hamas? Est-ce que vous dénoncez les massacres de 40 000 civils à Gaza? Est-ce que vous dénoncez les massacres de 15 000 enfants?
S'il vous plaît, parce que c'est inaudible.
Le sujet est notre existence.
Est-ce que vous dénoncez le massacre de 15 000 enfants à Gaza, monsieur Balloul?
L'Eurovision, ce n'est pas Netanyahou. Voilà, L'Eurovision, ce n'est pas ça. L'Eurovision, c'est notre existence, monsieur. C'est ça qui est derrière. Et vous mentez, vous le savez.
C'est quand la Russie a été
exclue de
l'Eurovision, c'était pas Poutine qui allait chanter non plus, hein.
J'aimerais en pouvoir en caser une, s'il vous plaît. Ulysse Gosset, c'était prévisible, finalement, que ce conflit, cette guerre, cette riposte de Benjamin Netanyahou à Gaza, cette guerre qui dure depuis des mois, rejaillisse sur ce concours.
D'autant que ce n'est pas la première fois qu'il y a des appels au boycott contre Israël à l'Eurovision. La dernière fois, c'était en 2019, lorsque l'Eurovision a eu lieu à Tel Aviv, en Israël. L'Eurovision a résisté. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Eurovision, c'est 200 millions de téléspectateurs. C'est un élément de soft power dont évidemment tout le monde voudrait profiter et certains d'ailleurs des candidats en profitent. Au cours de cette cérémonie-là à Malmö, en Suède, il y a déjà eu 8 candidats qui ont demandé un cessez-le-feu ouvertement. En 2019, il y avait un groupe islandais qui avait brandi un drapeau palestinien et un kéfier pour appeler au boycott d'Israël. Donc ce n'est pas la première fois et c'est impossible de dresser des barrières autour de l'Eurovision pour que le monde extérieur n'y pénètre pas. On l'a vu en Ukraine, la Russie a été exclue, effectivement, parce que la Russie a envahi l'Ukraine. Ce n'est pas le cas d'Israël. Ce n'est pas le cas d'Israël. Donc, c'est la raison pour laquelle la Russie a été exclue.
Il se passe rien à Gaza.
C'était un acte de guerre. Non, mais.
Il se passe rien à Gaza.
Il y a eu un pogrom le 7 octobre.
La Palestine n'est pas occupée. Il n'y a pas aujourd'hui un colonisateur, un colonisé. Ça n'existe pas.
L'Eurovision. Je termine. L'Eurovision n'est pas un concours.
Comme si elle était occupée.
Émeric Caron, l'Eurovision n'est pas un concours entre gouvernements. L'Eurovision, c'est un concours de chant, c'est le plus grand concours de chant au monde, qui est destiné à faire preuve de tolérance et à accepter toutes les voix.
Est-ce que oui ou non ?
Ce qui serait bien, je termine, s'il vous plaît.
Ce qui serait
bien pour résoudre la question, c'est qu'il y ait un État palestinien avec des chanteurs palestiniens qui puissent représenter la Palestine.
Oui, ils ont vraiment le temps de chanter en ce moment, les Palestiniens.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Ce qui reste, d'aller à l'Eurovision.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Pousser la chansonnette, vous êtes sérieux ?
Je rappelle que, donc, en 2019, il y a déjà eu des appels au boycott qui n'ont pas. Mais non, je ne suis pas déconnecté.
Enfin, allez dire, je suis serais bien de, pour dire une chose, c'est qu'il y a un chanteur palestinien.
Je suis en train de vous dire que, heureusement, l'Eurovision peut être préservée. Qu'il y ait un débat sur les génocides, c'est une chose, mais l'Eurovision, ça ne sert
Ulysse
pas à ça.
Vous
et enfin, dernière chose que je vais ajouter, après vous me direz ce que vous voulez, il y a eu une décision de la Cour internationale de justice de La Haye, à qui la question a été posée par l'Afrique du Sud pour savoir s'il y avait un génocide en cours à Gaza. Et là,
la Cour n'a pas répondu de façon favorable. Elle a dit qu'il fallait tout faire pour éviter qu'il y ait un génocide.
Oui, parce qu'il y avait un
elle
génocide.
Elle n'a pas reconnu qu'il y avait un génocide.
Elle ne peut pas, pour une raison très simple, c'est qu'il faut une enquête de plusieurs années.
Donc vous vous accusez d'Israël de génocide, mais je rappelle qu'il n'y a eu qu'une seule décision à ce jour et que la réponse est non.
Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit il y a une quinzaine de minutes. J'ai expliqué qu'il y a plusieurs experts de l'ONU qui aujourd'hui utilisent ce terme. La rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés explique qu'il y a aujourd'hui 5...
Mais ça n'a pas valeur de loi, l'avis d'un expert. N'a pas
sur les cinq
de loi.
Actes qui permettent de qualifier un génocide, il y en a trois qui sont constatés aujourd'hui à Gaza.
Sur cinq.
Il y a d'autres, insuffit.
Non mais
il faut pas. C'est pas un auto, il faut les cinq.
À l'ONU, il y a des milliers d'experts sur toutes les questions. Il y a des milliers d'experts. Il y a des milliers d'experts à l'ONU. Il n'y a pas eu de décision de l'ONU.
Vous savez qu'il y a des ministres. Il y a un ministre espagnol qui vient aussi d'utiliser ce terme de génocide aujourd'hui même.
Donc ce n'est pas le gouvernement espagnol.
Non, mais l'opinion américaine aussi commence aujourd'hui à le penser. Alors vous avez raison. Un jour, il faudra qu'il y ait une décision de justice qui statue. Mais le fait d'empêcher des gens d'utiliser ce terme parce qu'ils ont énormément de raisons de penser que ce terme est tout à fait adéquat, eh bien, me gêne terriblement parce que je voudrais savoir ce que ça cache derrière. Ça sert tout simplement à essayer de minimiser les atrocités que subissent aujourd'hui les Gazaouis. Un mot quand même pour vous répondre sur l'Eurovision. On vote, vous êtes d'accord, pour des pays. Vous savez, le fameux 12 points, 10 points, etc. On dit France, Israël, Belgique. Donc, que vous le vouliez ou non, la personne qui va représenter Israël, effectivement, elle va incarner son pays. C'est-à-dire, les gens vont être amenés à dire si oui ou non, ils votent pour ce pays. Et aujourd'hui, en effet, imaginez que ce pays envoie une représentante pour faire une chanson dans le contexte qui est celui que nous connaissons tous, même si vous essayez de le minimiser autour de ce plateau, c'est-à-dire des atrocités qui sont commises quotidiennement depuis 7 mois par ce pays contre une population
et on ne nie pas ça,
composée essentiellement d'enfants. Eh bien, ça me semble tout à fait normal aujourd'hui qu'on puisse être heurté par ça. Et de la même manière que je fais partie des députés qui ont demandé, avec une trentaine d'autres députés de France Insoumise et écologistes, à ce qu'il y ait les mêmes sanctions qui soient appliquées aux Jeux Olympiques aux athlètes russes, aux athlètes israéliens, pardon, que celles qui sont appliquées aux athlètes russes et biélorusses.
Donc, vous souhaitez une bannière neutre.
Absolument. Ce serait absolument normal.
Je voudrais ajouter
la moindre des choses.
Un sondage de Axios qui a été pris aux États-Unis il y a 3 jours et que 80% de la population américaine et pas les quelques milliers de jeunes gens plutôt fortunés qu'ils ont dans les universités américaines soutient Israël. Donc 80%, l'opinion américaine n'a pas complètement changé.
Un autre sondage vient de tomber aujourd'hui même qui dit que parmi l'électorat démocrate, la majorité considère que c'est un génocide qui est en cours. Donc vous voyez, les sondages, on peut leur faire bien un peu ce
qu'on veut. Je demande les références du sondage.
Sur la question, juste parce qu'on évoque l'exclusion de la Russie, c'était en 2022, les organisateurs se sont exprimés, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pointé ce deux poids deux mesures, et ont expliqué que la différence, c'est qu'il n'y a pas eu de sanction de la communauté internationale à l'encontre d'Israël, contrairement à la Russie.
Oui, c'est
exact. L'argument qui est donné.
Non, mais surtout, le fait fondamental, c'est que la Russie a violé le droit international en brisant les frontières de l'Ukraine et en envahissant ce pays qui était un pays en paix, malgré effectivement les incidents et la guerre dans le Donbass. Mais un pays qui a été envahi par un autre, ça justifie l'exclusion. Aujourd'hui, on est face à un concours de l'Eurovision où on va effectivement avoir une chanteuse israélienne dont on a déjà revu 3 fois le texte, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que on a tout fait pour que son texte ne soit pas politique. C'est-à-dire que les dirigeants de l'Eurovision essayent de préserver le concours de la guerre. Mais le problème, et là, il y a une réalité qui s'impose, c'est-à-dire que l'Europe a changé. L'Eurovision, c'est le concours de chant de l'Eurovision des télévisions de l'Union européenne de radiodiffusion et de télévision. Quand elle a été créée, il n'y avait pas la guerre. Aujourd'hui, il y a la guerre. Et c'est normal que le débat ait lieu et fasse rage aujourd'hui parce que la guerre arrive en Europe avec l'Ukraine et que la guerre est présente à Gaza et Israël est membre de l'Eurovision. Donc voilà, je dresse le constat malheureux qu'aujourd'hui, c'est difficile de ne pas parler de Gaza pendant l'Eurovision, mais de là à empêcher une chanteuse d'y participer alors que son peuple a été victime d'un pogrom qui est le plus grave commis depuis l'histoire d'Israël, ce n'est pas acceptable.
Moi, ce qui n'est pas acceptable, c'est vos propos. C'est votre manière de minimiser aujourd'hui complètement ce qui se passe à Gaza. Mais si, ce sont des crimes de guerre. Vous ne voulez pas utiliser le terme de génocide, libre à vous. Crime de guerre, vous l'utilisez ?
Oui.
Très bien.
Oui, il y a des crimes de guerre. Mais je ne suis pas le seul à le dire.
Absolument.
La France le dit.
Ça, je vous le confirme, tout le monde le dit.
L'Union européenne, la France et d'autres pays européens, les États-Unis dénoncent les crimes de guerre
quotidiens.
Et aujourd'hui, le président des États-Unis suspend des livraisons d'armes pour empêcher que des bombes soient utilisées contre des civils palestiniens.
Je sais que les chaînes françaises, y compris BFM, malheureusement, n'ont pas beaucoup montré la réalité de ce que subissent les Gazaouis.
On est souvent allé à Gaza, pardonnez-moi. On a eu des... quand, alors je vous dire, moi il y a quelques, on a eu des reportages sur place.
Palestiniens à Gaza, à l'intérieur,
des images,
des membres de MSF notamment qui étaient en direct avec vous depuis Gaza.
Quand vous voyez un reportage qui montre des enfants tués à Gaza,
moi des images j'en ai quasiment pas vu sur votre chaîne et sur les autres.
Regardez plus souvent BFM,
je regarde souvent votre chaîne. Comme je regarde d'autres chaînes.
Il y a eu des reportages.
Non, on en parle absolument. Moi je suis en train de monter un film
qui a été réalisé dans Gaza par des journalistes palestiniens que nous avons rediffusé parce que nous ne sommes pas autorisés à aller à Gaza.
Ça, je vous le confirme, ce qui est pas normal, vous le dénoncez. Le fait
normal.
Que les journalistes
ce
soient interdits de couvrir ce conflit
ce n'est pas normal.
Par le gouvernement israélien qui veut cacher les atrocités qu'il commet.
Je crois que Julien Balloul s'impatiente et nous fait signe, vous souhaitiez intervenir, Julien Balloul.
Deux choses. Je vais commencer par une première nouvelle, c'est que j'entends les débats. Sachez que Israël est qualifié pour la finale. Voilà, M. Garon, sachez, vous pourrez cacher votre colère. Israël est qualifié pour la finale. Israël sera à la finale de l'Eurovision. Vous ne nous ferez pas taire. Nous serons bien présents aux compétitions culturelles internationales et compétitions sportives. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est fait. Les tentatives sont vaines. Ensuite, deuxièmement, il faut arrêter les comparaisons avec la Russie et ce genre de régime. Non, 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 non. Israël est un pays qui se défend face à une menace terroriste dans une guerre urbaine.
On va arrêter cette propagande. Franchement, je suis pas venu sur votre plateau pour entendre la propagande de Monsieur Balloul. Là, c'est bon, quoi. La propagande du gouvernement d'extrême droite israélien, ça va.
Sans intervenir.
Mais oui, c'est ça.
D'écouter quelques phrases de plus sans intervenir. Je vous ai écouté longuement. Acceptez de laisser parler les autres.
Ça a dû vous faire mal aux oreilles, hein.
Oh, écoutez, ça serait bien. Je fais mal aux oreilles depuis 2014, on entend vos propos sur Ilan Halimi.
Vous n'êtes toujours pas répondu à ma question, monsieur Balloul. Est-ce que vous dénoncez les 15 000 enfants? Est-ce que vous dénoncez les 15 000 enfants morts à Gaza?
On peut pas débattre, on peut pas débattre de ce genre.
Je vous pose une question, c'est l'occasion de débattre.
Je refuse
de prouver vous êtes de gauche. Est-ce que vous dénoncez les 15 000 enfants morts à Gaza?
C'est trop inaudible, je suis désolé, messieurs.
Non, c'est au contraire, je trouve que c'est très clair.
Non, c'est. Merci. On parle de l'Eurovision. La candidate israélienne est venue rendre hommage aux jeunes qui ont été massacrés à Nova lors du pogrom du 7 octobre. C'est tout. Les raisons des manifestations contre elle sont uniquement contre l'existence même de ce pays. Ça n'a rien à voir avec la politique israélienne.
Allez, on parle de la vieille propagande, c'est-à-dire ceux qui manifestent pour la paix à Gaza sont des antisémites qui veulent la destruction d'Israël.
Julien Balloul,
c'est pas digne de votre antenne. De
Julien Balloul, est-ce qu'on peut pas défendre la cause palestinienne sans être taxé d'antisémitisme?
Ai-je employé le mot antisémite?
Non, mais vous dites on souhaite la disparition d'Israël, etc.
C'est la légitimité même de l'existence de l'État d'Israël. Ai-je employé le mot antisémite?
Non, pardon, mais je vous pose la question. Est-ce qu'on peut défendre la cause palestinienne sans être antisémite?
Madame, vous savez, moi, j'ai participé, je pense, bien plus de manifestations que M. Caron dans toute sa vie. Manifestations
pour la paix.
Les rassemblements, mais écoutez, laissez parler les gens.
Mais je vous laisse parler.
J'étais tous les ans.
J'ai juste atterré, pardon.
Tous les ans. Mais taisez-vous. J'étais tous les ans, place Rabin, à la date anniversaire de l'assassinat d'Isaac Rabin, où il y avait les drapeaux de la paix maintenant, avec drapeaux israéliens et palestiniens, tous les ans. J'ai grandi dans un mouvement de jeunesse juif, socialiste, qui manifeste pour la paix, pour la fin de l'occupation.
Qui manifeste aujourd'hui pour que les massacres se poursuivent à Gaza.
C'est incroyable. Il ne pouvait pas juste vous taire et laisser parler à une personne.
Je vous ai entendu. J'ai le droit.
Allez, on laisse terminer Julien Balloul et derrière on va avancer, s'il vous plaît.
Vous savez très bien que je vote. Vous savez très bien que je vote pour les partis d'opposition qui militent pour la création d'un État palestinien.
Mais bien sûr.
Que vous ne ferez jamais. Mais bien sûr.
Moi, je sais que surtout vous avez été un porte-parole de l'armée israélienne, de Tsahal, et que vous la défendez constamment et que vous défendez ses actions. Voilà. Ce que vous faites encore ce soir.
J'ai fait mon service militaire avec fierté. Comme citoyen qui sert et qui aime son pays.
Et vous êtes toujours fier aujourd'hui de l'armée israélienne ?
Allez, s'il vous plaît.
Est-ce que vous êtes encore fier aujourd'hui de l'armée israélienne, monsieur Balloul ?
Je suis très fier de mes amis qui défendent mon pays contre notre.
Donc vous êtes très fier des massacres en cours. Voilà, c'est la raison pour laquelle, je crois que monsieur Balloul vient de démontrer la raison pour laquelle aujourd'hui il faut prendre des sanctions contre Israël et notamment
le fait d'exclure le pays de l'Ukraine
est une sanction possible et nécessaire.
Une dernière phrase et je vous laisse.
Vous laissez terminer une dernière phrase.
Le seul risque de génocide qui est réel, c'est tous les pays autour de nous qui ont juré au moins une fois à notre extermination, l'Iran, le Hamas et Hezbollah, qui ne sont certes pas des États. On l'a vu, le génocide, le pogrom du 7 octobre, ils ont juré de le refaire. Ça, c'est le vrai risque de génocide. Le reste,
c'est pour ça que vous soutenez une armée qui a déjà tué 40 000 personnes.
La responsabilité du Hamas dans la guerre actuelle.
Merci Julien Balloul. On va revenir sur l'Eurovision, avec Edgar Becquet qui, j'espère, va apaiser un peu ce plateau. La géopolitique, c'est pas la première fois qu'elle s'invite dans l'Eurovision.
Oui, exactement. On va commencer quelques années en arrière, en 2019. Cette année-là, le concours se tient à Tel Aviv, en Israël, et vers la fin de l'émission, au moment de l'attribution des points, le groupe islandais Atari, que vous voyez à l'écran, brandit des banderoles en soutien à la Palestine. Une règle du concours interdit la politisation de l'événement. Le groupe reçoit donc une amende. Quelques années plus tard, en 2022, la Russie est exclue du concours par les organisateurs après l'invasion de l'Ukraine. L'Ukraine qui gagne cette édition avec le groupe Kalouche Orchestra et sa chanson Stefania. Écoutez, c'est cette musique devenue pour certains un hymne de guerre, un plébiscite à l'Eurovision, évidemment lié à la situation dans le pays. En revanche, la Russie n'avait pas été exclue en 2014, quelques mois après l'annexion de la Crimée, mais les deux chanteuses qui représentent cette année-là le pays se sont faites huer lors de la demi-finale l'année suivante, en 2015. Les organisateurs avaient donc mis en place dans la salle un système anti-huée. Et un concours donc très politique, on l'a rappelé, mais même si les chansons à caractère politique sont officiellement interdites depuis 2005 et des chansons ont même dû être modifiées. C'est le cas en 2015, l'Arménie veut évoquer le souvenir du génocide arménien. Le titre de sa chanson, Don't Deny, ne le niez pas en français, référence au fait que la Turquie ne reconnaissait pas le génocide arménien, titre qui avait donc dû être changé face à la colère de la Turquie. Et puis, quelques années avant, en 2009, c'est la chanson géorgienne qui fait polémique. Le groupe qui représente le pays propose comme chanson « We don't want put in », un jeu de mots entre le nom « Poutine » et le verbe « mettre » en anglais, « to put in », titre que l'on peut interpréter comme « On ne veut pas de Poutine ». La chanson est donc rejetée par les organisateurs. La Géorgie refuse d'en écrire une nouvelle et décide tout simplement de ne pas se présenter.
Donc finalement, ça arrive régulièrement que l'Eurovision se retrouve sous le coup de la polémique.
Oui, mais c'est normal. Encore une fois, le monde existe autour de l'Eurovision, mais il faut protéger quand même l'Eurovision des chaos de la planète. Je voudrais simplement ajouter l'information qui effectivement est officielle. Israël a été qualifié pour la finale de l'Eurovision, en dépit de la contestation. Mais pas seulement Israël, la Lettonie, l'Autriche, les Pays-Bas, la Norvège, la Grèce, l'Estonie, la Suisse, la Géorgie et l'Arménie.
C'est une question.
Est-ce qu'il manque quelqu'un ?
Nous.
La Lettonie, l'Autriche, les Pays-Bas, la Norvège, la Grèce, l'Estonie, la Suisse, la Géorgie, l'Arménie.
La France.
Et la France. Il faudrait peut-être demander à nos envoyés spéciaux.
47 ans que la France n'a pas gagné.
Et oui, mais là, elle n'est même pas en finale.
Si, je crois que
j'ai une explication et qu'on a passé le.
Alors, si elle est en finale, ça serait bien.
J'ai une question pour M. Gosset qui connaît très bien les affaires internationales. Vous reconnaissez quand même le bilan de plus de 40 000 victimes et 15 000 enfants tués ?
Et aucun de ces morts ne serait mort s'il n'y avait pas eu le 7 octobre.
Non, mais c'est pas la
question. Aucun de ces morts ne serait mort s'il n'y avait pas eu le 7 octobre.
Oui, et si Hamas.
C'est le Hamas qui est responsable.
Et si Netanyahou n'avait pas encouragé le financement du Hamas.
C'est vrai, vous pouvez manifester en Israël contre Netanyahou. Et si Netanyahou
avait écouté ses services de renseignement qui avaient dit que cette opération allait se produire. Ma question, donc, M. Gosset, c'est est-ce que vous reconnaissez qu'il y a plus de 40 000 morts, dont 15 000 enfants, à Gaza depuis 7 mois ?
Alors écoutez, le dernier chiffre donné par le ministère de la Santé du Hamas est de près de 35 000 victimes et de 78 000 blessés. Par ailleurs, les sources américaines ont reconnu effectivement qu'il y avait eu 25 000 morts à Gaza. Et il n'y a pas eu depuis d'autres chiffres indépendants, si j'ose dire. Donc oui, mais c'est un désastre humanitaire.
Est-ce que vous connaissez une autre situation ?
Et là, une autre situation récente particulièrement terrifiante.
15 000 enfants ont été tués en l'espace de 6 mois. Est-ce que vous connaissez d'autres situations similaires ?
Mais écoutez,
il y a cette question que je vous pose. Est-ce que vous connaissez d'autres situations similaires où une armée aurait tué 15 000 enfants ?
Le Rwanda, Soudan n'est pas loin de ces morts-là.
Je vous pose cette question, c'est important. Parce que réalité, vous savez, c'est que si un autre pays qu'Israël, avait commis ce que commet Israël depuis 6 mois, notamment ces 15 000 enfants tués, il aurait été mis immédiatement au banc de la communauté internationale.
Vous le savez très bien. Vous ne citez pas la guerre en Syrie, vous ne citez pas la guerre au Congo, vous ne citez pas les génocides.
Je vous parlais, je vous parlais justement.
Mais vous ne citez pas tous ces conflits qui effectivement voient la mort des enfants dans ces guerres. C'est inadmissible, c'est inacceptable.
Non, ce n'est pas un conflit comme les autres.
Bah, oui, ça a commencé par
en 4 mois à Gaza ont été tués plus d'enfants que partout dans le monde, dans les conflits du reste du monde en 4 ans. Vous le savez.
C'est pour ça que l'on demande un cessez-le-feu. C'est pour ça que la France demande un cessez-le-feu.
Nous sommes dans une situation inédite.
C'est pour ça que la France demande un cessez-le-feu.
N'importe quel autre pays qu'Israël aurait commis ces massacres, il aurait été mis au banc de la communauté internationale. Et si jamais tout le monde aujourd'hui sur ce plateau est en train d'essayer de défendre ce pays, c'est parce que c'est un pays qui aujourd'hui n'est pas traité comme les autres pays.
Mais encore
alors
une fois,
attendez,
ça
je vous arrête
tout de suite si le Hamas se rendait.
Arrêtez avec ça. Encore une fois, vous êtes indécent. Vous le dites honnêtement. Vous êtes indécent.
Il y a des émissaires au Caire. Ils vous écoutent les émissaires au Caire. Ils écoutent les politiques internationales.
Il y a pas un cessez-le-feu qui devait être signé. Le Hamas avait dit oui. C'est Netanyahou qui ne veut pas du cessez-le-feu. Netanyahou veut continuer sa guerre. Il veut aller massacrer jusqu'au bout les Palestiniens. Et vous savez très bien pourquoi.